Assise, la cité mystique de Lombrie, en 1182, une poignée de maisons lancées sur le flanc oriental du mont Subiaso, entourée par une forteresse immense. Devant ses portes veillent des guerriers attentifs à la moindre alerte. À cette époque, le pape Lucius III siège sur le trône de pierre et Frédéric Barberousse porte le sceptre de l'Empire. Et quelque part dans la ville d'Assise, un enfant naît, fils de Pierre Bernardone, riche marchand, et de Mona Pica, une Française. En hommage à la France, il s'appellera François. Les parents de Saint-François sont très partagés sur l'avenir de leur fils. La mère le voit déjà prêtre. Tu sais, Bernardone, quand je vois notre enfant si beau, si gracieux, je pense, c'est Dieu qui nous l'a donné. Peut-être le destine-t-il à une grande mission surnaturelle. Allons, allons, Mona. François restera avec moi dans le commerce. Il sera marchand comme son père. Et le père ne perd pas de temps. Dès l'âge de 14 ans, Saint-François sera familiarisé avec les astuces du commerce. Mais son cœur reste doux, ouvert, compatissant. Un jour au magasin, il reçoit la visite d'un pauvre. Il est pressé. Écoutez, revenez une autre fois, mon brave. Le pauvre partit. François se souvient des paroles de notre Seigneur. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il prend alors quelques pièces d'argent et vite il court dans la rue où il retrouve le pauvre de tout à l'heure. Prenez, brave homme, et pardonnez-moi pour l'amour de Dieu. À Assise, Saint-François était le roi de toute cette jeunesse frivole. On l'appelait à toutes les fêtes. Automne 1204, Saint-François sort d'une longue maladie et l'air encore tiède de la campagne l'invite à faire une promenade. Mais au dernier rayon du soleil, les couleurs magnifiques des feuilles s'évanouissent aux yeux du convalescent. Il sent un dégoût infini, une amère désillusion. Il pense, c'est cela la beauté que je cherche, c'est cela ce que je désire posséder. Et si je possédais la terre entière, à quoi cela servirait-il? Vanité de vanité, tout est vanité. Rumeur de guerre dans le ciel d'Assise. Gautier III de Brienne veut s'emparer de la principauté de Tarente, usurpée par des aventuriers suisses. Il porte la bannière du pape Innocent III. Il va lever des troupes dans la jeunesse d'Assise. Saint-François guéri revêt la cuirasse du guerrier avec enthousiasme. Mais Dieu l'attendait sur la route de Spolète. Une nuit, il entendit une voix qui lui demandait où il allait. « Dans les Pouilles, Seigneur, pour devenir chevalier, » répond Saint-François. La voix reprit, « Tu te trompes, François. Dieu, voilà quel est ton maître. Pourquoi t'abandonnes-tu pour suivre un guerrier? Retourne à Assise et là tu sauras comment te mettre au service de Dieu. » Revenu au logis familial, François retrouve tous ses amis. Il offre un grand banquet. Ce sera le dernier. Mais son visage reste grave au milieu des chants et des rires. Quand tous sont partis, il ne reste plus qu'un ami fidèle. Qu'as-tu, François? Ton visage était triste au milieu de la fête. Certains disent que tu veux nous laisser tomber, même que tu as déjà choisi une épouse. Oui, répond François. Je l'ai choisie et c'est la plus noble et la plus gracieuse des épouses. Elle s'appelle Dame Pauvreté. Dame Pauvreté avait conquis le cœur de Saint François. Mais comment faire pour convaincre son père? Saint François prend le bâton de pèlerin, il va à Rome sur le tombeau des apôtres Pierre et Paul pour leur demander leur aide. Là, il prend sa grande décision. Il arrache sa bourse de florins d'or qu'il a emportée avec lui et il la jette dans la sébille d'un pauvre. Dehors, il troque son bel habit contre les misérables loques d'un mendiant. De retour à Assise, durant ces longues cavalcades solitaires, Saint François pense à l'éternité, à la nullité des choses. Une voix intérieure lui dit qu'il ne suffit pas de laisser la richesse, mais qu'il faut aussi s'oublier soi-même, vaincre son propre orgueil. Il entend un jour la clochette lugubre d'un lépreux qui passe. Se vaincre soi-même, pense François. Il descend de cheval et il embrasse la main du lépreux. Dieu vous bénisse, mon frère. Un jour, il s'arrête à l'église de Saint-Damien et il se met à prier devant un grand crucifix. Quand il entend une voix lui dire, François, va et répare ma maison qui tombe en ruine. Il se lève, il regarde autour de lui. En effet, l'église de Saint-Damien tombé vraiment en ruine. Il va trouver le chapelain, lui donne une belle somme d'argent afin que l'église soit réparée. Mais le chapelain qui connaît le père de François refuse. Oh mon ami, si votre père apprenait cela, il serait furieux. Saint François se demande alors ce qu'avait voulu lui dire Dieu. Va et répare ma maison. Il se retire dans une solitude et un mois durant, il mortifie son corps par de rudes pénitences. Au bout d'un mois, amaigri, méconnaissable, il retourne à Assise, sa ville. Là, il est accueilli par les rires et les moqueries de la foule qui croit que François est devenu fou. La nouvelle frappe le père de François, le sieur Bernardone, comme un poignard. Il menace son fils, il le supplie, il le bat, rien n'y fait. Il le traîne alors au tribunal de l'évêque. Là, l'évêque dit à François, « Mon fils, c'est une bonne chose de servir Dieu, mais l'argent que vous donnez appartient à votre père, vous devez le lui rendre. » Saint François lui rendit non seulement l'argent, mais jusqu'à ses vêtements. Maintenant, Père, je pourrais dire vraiment, notre Père qui êtes aux cieux. François se retira après cela, loin des bruits du monde, pour mieux entendre la voix de Dieu. Il parcourait forêts et montagnes pleines de joie. Il composait des cantiques. Un jour, des bandits surprennent notre saint. C'est un fou, se disent-ils. Donnons-lui une leçon. Ils le frappent cruellement, ils le jettent dans une fosse pleine de neige. Mais Saint François remercie Dieu d'avoir été estimé digne de souffrir pour lui. Il alla ensuite frapper à la porte d'un monastère bénédictin. Je demande votre hospitalité, frère. Je travaillerai dans le jardin en échange de votre charité. Il resta là quelque temps, puis il continua sa route. Arrivé près de Gubbio, il découvrit l'hospice où gisaient les lépreux désespérés à cause de leur maladie. Il pansa leurs plaies répugnantes et il les consola. Des coups de fouet des soldats romains ont lacéré Jésus, le réduisant comme vous êtes maintenant, mes frères, les lépreux. Soyez dans la joie, parce qu'après la mort, vous vous réjouirez éternellement. Arrivé enfin à Assise, François retrouve sa petite église Saint-Damien, toujours en ruine. Il parcourt alors les rues d'Assise pour mendier de quoi réparer la maison de Dieu. Le soir de sa première journée de travail, Saint-François prend une écuelle et frappe humblement aux portes. Il demande un morceau de pain, une cuillerée de soupe, pour un pauvre homme, par amour de Dieu. Et bientôt dans son écuelle, semelle abîmée, soupe, pain moisi, feuilles de laitue. C'est ainsi que le fils du riche Bernardone sent son estomac soulevé de nausée. Pourtant il trempe sa cuillère dans le mélange infect et les yeux se lèvent au ciel. Vous n'en avez pas eu tant, Seigneur Jésus, sur le calvaire. Mais le service divin ne pouvait se limiter à cela. Il fallait aussi prêcher. Il va dans les rues et sur les places. D'Assise, et là, avec des mots simples, mais brûlants d'amour, il prêche la pénitence et l'amour de Jésus. Le résultat, beaucoup de moqueries pour lui, quelques âmes pour Dieu. La première de ces âmes s'appelle Bernard de Quintevalle, un ancien compagnon de fête. Un soir, il invita Saint-François à dîner chez lui et à passer la nuit dans sa maison. François accepta. En pleine nuit, Bernard se lève pour surveiller l'étrange Saint-François. Il le découvre sur les dalles, les bras en croix, le visage baigné de larmes, répétant sans arrêt et avec une infinie tendresse « Mon Dieu et mon tout, mon Dieu et mon tout ». Bernard veut le suivre et embrasser lui aussi d'âme pauvreté. Mais Saint-François voulut, avant d'accepter Bernard, connaître la volonté de Dieu. Ils allèrent à l'église Saint-Nicolas, et là, ouvrant l'évangile au hasard, ils tombèrent sur ce passage. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. » Ils refermèrent le livre, puis l'ouvrirent de nouveau. « Si tu veux être mon disciple, renonce-toi à toi-même, prends la croix et suis-moi. » Enfin, une troisième fois, ils ouvrirent le livre. N'emportez rien avec vous pour vos voyages. Bernard, as-tu entendu l'appel de notre Seigneur? Telle sera notre vie. Le 16 avril 1209, Bernard de Quintevalle donnait aux pauvres toutes ses richesses. Peu après, un autre jeune homme d'Assise, Égide, décidé de laisser tout pour suivre Saint-François. Bienvenue, frère Égide. Le Seigneur vous accepte comme son serviteur et son chevalier. Bénissons le roi du ciel qui a eu la bonté de jeter les yeux sur vous. D'autres disciples suivront les frères Bernard et Égide. Un jour, Saint-François les réunit près de Sainte-Marie-des-Anges. Mes frères, il faut que par la parole et par l'exemple, vous poussiez les pécheurs à faire pénitence. Allez deux à deux et annoncez la paix, la vraie paix. Certains vous accueilleront avec joie, d'autres vous rejetteront. Soyez patients, mes frères, et vous recevrez comme récompense le royaume des cieux. Un autre jour, à Rieti, Saint-François rencontre un brillant chevalier à l'armure scintillante. « Mon frère, vous avez assez porté l'armure, l'épée et l'éperon. Venez prendre comme armure une tunique rapiécée, comme épée la croix et comme éperon la poussière et la boue. Suivez-moi, je vous ferai soldat du Christ. Et ce fut le 11e compagnon à suivre Saint François. Saint François n'avait plus qu'à leur donner maintenant une règle de vie. Il la puisa dans les saintes écritures. Vie de pauvreté, d'obéissance, de chasteté. Renoncer à une quelconque possession et vivre d'aumône. Maintenant, mes frères, partons pour Rome afin de faire approuver notre règle de vie par notre Saint-Père le Pape. Or, pendant que nos pèlerins cheminaient vers Rome, le pape de l'époque, Innocent III, eut un songe. Voici ce qu'il raconta aux cardinaux. Il me semblait que notre sainte basilique du Latran, mère et maîtresse de toutes les églises du monde chrétien, vacillait sur ses bases, et j'essayais de l'empêcher de s'écrouler. Or, voici qu'un homme, pauvre et vêtu misérablement, la retenait par ses épaules. Le pape Innocent III reconnut François dans ce pauvre vu en songe. Il comprit sa mission providentielle et voulut lui-même recevoir les vœux des premiers frères, approuva la règle et leur donna un à un le baiser de paix. Assise près d'un torrent appelé Rivotorto, sonnent les cloches très pauvres du premier couvent franciscain. À peu de temps de là, passe près du couvent un illustre chevalier. C'est Othon IV qui va à Rome se faire couronner empereur. Saint François le voit, l'aborde et lui dit « Sachez, ô prince, que votre gloire durera peu. » En effet, un an après, Othon IV n'était plus empereur. Carême 1212. Saint François, ordonné diacre, prêche pour la première fois à l'église Saint-Georges. Dans la foule qui se presse pour l'écouter parler, se glisse une jeune fille de noble famille, Claire, qui deviendra Sainte Claire d'Assise. Les paroles ardentes de Saint-François qui demande pénitence la font réfléchir sur les vanités du monde. Elle va trouver Saint-François pour savoir ce qu'elle doit faire. Vous voulez être parfaite, Claire. Allez, vendez tout ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. Jésus ne se contente pas d'un enthousiasme passager, Claire. Si vous voulez que je croie votre décision ferme, déposez vos joyaux et vos atours, puis allez vêtue d'un sac, demander l'aumône porte à porte. Ainsi, durant le carême, Assise vit Sainte Claire faire du porte à porte pour mendier son pain. Et le soir du jeudi saint, François l'a reçu à l'église Sainte-Marie des Anges, au nom de Dieu, comme vierge consacrée au Seigneur. Cet ordre s'appellera l'ordre des Clarisses. Peu de temps après, Agnès, la douce sœur de Sainte-Claire, viendra la rejoindre. Les deux ordres franciscains et Clarisse commençaient à se répandre. Les pauvres paysans, les riches commerçants, les jeunes gens dissipés décidaient un jour de vêtir un sac et de vivre de pénitence. Mais parfois le cœur des hommes est dur et ne veut pas entendre l'appel de Dieu. Alors François prêche aux oiseaux qui accourent nombreux, attentifs à sa parole. Loué soit le Seigneur, ô mes petits frères, pour la nourriture qu'il vous donne chaque jour. Pour vos ailes légères, pour vos plumes de soie. Mais Saint François ne se contentera pas de prêcher aux animaux inoffensifs. Un jour, la petite cité de Gubbio est terrorisée par un loup féroce. Quand Saint François sait qu'il a dévoré des enfants, il va le trouver. Il l'arrête d'un signe de croix, puis il lui dit « Venez ici, frère loup. Vous avez commis de grands délits. Vous méritez la mort. Mais si vous voulez faire la paix avec les hommes et mener une vie innocente, ils vous donneront à manger. Voulez-vous bien ?» Et frère loup accepta le marché. Arrivé à Sienne, Saint-François trouve une bande d'hommes plus féroces qu'une armée en bataille. « Paix, mes frères, pardonnez pour l'amour de celui qui mourut par amour pour vous. » Le pardon fut difficile à obtenir, mais on finit par déposer les armes. À Rome, un jour, près de Saint-Pierre, François voit un moine aux yeux ardents et à la parole de feu. Ils ne se sont jamais vus, mais quand ils se rencontrent, ils échangent le baiser de paix. Car ce moine s'appelle Dominique, fondateur des Dominicains, vainqueur des Albigeois, apôtre du Saint-Rosaire, deux saints face à face. Les années passant, l'amour de Saint-François pour Dame Pauvreté ne diminuait pas. Un jour de fête, les frères avaient décidé de soigner un peu plus que d'habitude leur repas très pauvre. Saint-François en eut de la peine. Il entra dans la pièce, prit un morceau de pain et une gorgée d'eau dans un coin sans rien dire. Les frères comprirent la leçon. Été 1219. 400 000 croisés s'embarquent sur les plages d'Égypte pour combattre le sultan, ennemi de la croix de Jésus-Christ. Saint François les suit. Il réussit à rejoindre le campement du sultan car il veut lui parler. La parole de Saint François émeut le sultan au point qu'il lui laisse la vie sauve et le raccompagne en bonne escorte. Puis Saint François va à Jérusalem visiter les lieux saints. Le sable brûlant soulevé par le vent chaud le fait souffrir horriblement. Arrivé devant la cité sainte, il tombe à genoux. Il pleure. Le rêve de sa vie se réalisait. Il allait enfin pouvoir parcourir le même chemin que son sauveur parcouru jusqu'à la croix. De retour, Saint François se retira dans une solitude. Agenouillé au pied d'une croix, il parle avec Dieu. Ses pénitences étaient terribles, son corps décharné par le jeûne, mais ses yeux brillaient de joie. 1221, Saint François élevait des monastères en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne. Un jour, il rencontre deux époux chrétiens qui désirent vivre comme lui. C'est ce jour-là que Saint François instituera un troisième ordre après les franciscains et les clarisses pour les gens mariés. Voilà quelle en est la règle. Rendre ce que l'on doit, faire la paix avec ses ennemis personnels, observer les commandements de Dieu et de l'Église, remplir ses devoirs, prier, faire pénitence. Le tiers ordre se diffusera rapidement, aidant les âmes éprises de Dieu à être dans le monde sans être du monde. Noël 1223. Saint François dit à Jean Velita, son ami, « Jean, je veux célébrer cette année la plus belle fête de Noël qu'on ait jamais vue. Préparez tout comme à Bethléem, dans le bois. » À Greccio, on prépara un autel, avec tout prêt une mangeoire, un bœuf et un âne. À minuit, les cloches retentissent. Les frères et les villageois, flambeaux à la main, se rendent vers la crèche mystérieuse. Saint François, vêtu d'une dalmatique blanche, sert la messe de minuit et chante l'évangile. Quand sa voix tremblante prononce « Marie donna naissance à son fils Jésus-Christ », un frémissement parcourt la foule, car dans les bras de Saint François, le céleste enfant était apparu lumineux. Saint François, exténué par ses jeûnes et ses pénitences, finit par renoncer à sa charge supérieure et se retire sur le mont Verne. Là, sa seule nourriture sera l'Eucharistie et la messe qu'il sert au Père Léon. Il a 40 ans. 14 septembre 1224, Saint François, genouillé sur le sol, prit les bras étendus. Mon Dieu Jésus-Christ, je vous demande de grâce avant de mourir. Premièrement, ressentir votre souffrance du corps et de l'âme durant votre passion. Deuxièmement, recevoir dans mon cœur le feu de cet amour qui vous fit mourir pour nous sur la croix. La prière finie, un séraphin avec six ailes resplendissantes descend du ciel, la figure de Jésus crucifié derrière lui. Des rayons de feu tombent des plaies du crucifié, traverse le corps de Saint François. Maintenant, Saint François aussi est crucifié. Le 1226. L'automne arriva avec ses couleurs pâles. Saint François sentait en lui fondre la paix du soir. Il fallait redescendre dans la vallée et attendre notre Seigneur qui ne saurait tarder. Il dit adieu à sa douce solitude, puis, dans un humble convoi, il descendit vers le monastère de Sainte-Marie-des-Anges. Quand de loin apparut Assise, cité sainte, Saint-François demanda qu'on le laissât, et traçant un signe de croix, il dit « Béni sois-tu, ô ma cité, parce que beaucoup d'âmes se sauveront par toi et en toi, beaucoup de serviteurs de Dieu viendront habiter, et parmi tes fils, beaucoup iront au ciel. La paix soit avec toi. » Pendant que le soir tombait sur l'Apennin, dans sa petite cellule de la Portioncule, Saint François appela ses frères autour de lui pour les bénir une dernière fois. Loué soit notre Seigneur pour notre sœur la mort corporelle, à laquelle nul vivant ne peut s'échapper. Malheur à qui meurt dans le péché mortel, béni soit qui meurt en état de grâce. Louez et bénissez mon Seigneur. Remerciez-le et servez-le avec grande humilité. Cris et lamentation de la cité sainte d'Assise. Voici qu'est mort son poverello, son saint, l'ami des hommes et de Dieu. Sainte Claire, malade, se fit porter par ses religieuses et baisant, pleurant, les saints plaies de Jésus crucifié, que l'amour de notre Seigneur avait ouvert dans le corps de Saint François. Et 750 ans sont passés depuis ce temps-là. Le temps n'a pas fait disparaître le souvenir du saint. Il demeure vivace dans le cœur de ceux qui à sa suite prennent dame pauvreté pour compagne. Cherchez Dieu dans la simplicité de votre cœur, dans la beauté merveilleuse de la création qui vous entoure, et servez-le dans la pénitence, dans l'humilité et dans la sainte pauvreté.
C'était en l'an 1211 à Assise. Le matin du dimanche des Rameaux, Claire, âgée de 15 ans, était à l'église avec sa mère et sa petite sœur.
L'évêque attendait le rameau béni à la main, que Claire vienne le chercher, mais Claire priait. Et tous commençaient à la regarder émerveillée, et dans l'église il se fit un grand silence. L'évêque descendit alors les marches de l'autel, s'arrêta devant Claire et lui remit le rameau d'olivier. Cette nuit-là, Claire avait décidé de tout laisser pour entrer au couvent. Personne dans la famille n'était au courant, sauf Bona, son amie la plus fidèle. Mais le portail de la maison était fermé à double tour. « Ne crains rien, Bona, le Seigneur nous aidera. » Elle prit son amie par la main et avança. La porte s'ouvrit sans même un bruit. Mais dehors, il faisait nuit. « Claire, on ne voit rien. Et si on se trompe de chemin ?» Et voici qu'à ce moment, des lumières apparurent. Ce sont les torches de frère François d'Assise qui vient à la rencontre de Claire. Que cherchez-vous, ma fille ? Jésus. Et frère François, avec ses compagnons, conduisirent Claire à l'église Sainte-Marie des Anges. L'église était petite et pauvre, mais l'autel était couvert de rameaux d'olivier. Claire s'agenouilla devant l'autel et dit : Voici les tresses que j'offre à Jésus, mon époux. Et frère François coupa les tresses de Claire l'une après l'autre. Voici les riches vêtements que j'offre à Jésus, mon époux. Et Claire se dépouilla de son manteau de velours couleur azur et de sa ceinture d'or. Puis François lui dit : Désormais, revêtez l'habit de dame pauvreté et portez-le par amour de Jésus-Christ, l'époux de votre âme. Quand se leva l'aurore, ce matin-là, frère François et sœur Claire sortirent de l'église et cheminèrent longtemps. Ils arrivèrent au milieu de l'enthousiasme général auprès d'un couvent de religieuses bénédictines. Qui est là ? Frère François qui conduit à la maison de Dieu, sœur Claire. Claire entra seule. Son habit était des plus rustiques. Elle allait pieds nus. La religieuse lui dit : Pourquoi tant de pauvreté, ma sœur ? Nous aussi sommes épouses de Dieu, mais nous ne sommes pas aussi misérablement vêtues que vous. Je suis la plus pauvre parmi les pauvres. J'ai laissé ma maison et ma richesse cette nuit pour être pauvre comme l'époux de mon âme. À la maison de Claire ne tarda pas à découvrir la fugue. L'oncle et les cousins galopèrent jusqu'au couvent, furieux, et demandèrent à voir sœur Claire. Leur épée tintait menaçante. Les sœurs effrayées allèrent chercher Claire. « Claire, pourquoi veux-tu nous laisser ?»« Claire, allons, tu auras tout ce que tu voudras chez nous. Si tu reviens à la maison, collier, anneau, robe de velours. » Nous te donnerons un époux riche et puissant, Claire, Nous te donnerons des palais, des serviteurs. Et Claire répondit, Dieu est mon maître, et je ne suis que sa servante. Ils en vinrent aux menaces. Ils la prirent par le bras et la tirèrent hors du couvent. Mais Claire arracha son voile et montra sa tête rasée sans aucune honte. Laissez-moi, je suis à Dieu. L'oncle et les cousins s'écartèrent effrayés. Claire était désormais épouse de Dieu. Un jour, frère François vint la voir. Dieu soit avec vous, ma sœur. Je sais que vos parents sont venus vous chercher. Dieu veut éprouver votre amour. Mon amour pour lui est le plus fort et ne craint rien, frère François. Mais je ne trouve pas dans ces murs la pauvreté que vous m'avez promis. Où est la cellule avec le lit de paille? Où est le pain des pauvres que je devais manger? Ce soir-là, François revint au couvent de Saint-Damien, qui était si pauvre et délabré que plus personne ne l'habitait. Mais le long des murs du jardin abandonné, poussaient des roses, et la vieille cloche de l'église sonnait encore allègrement. Et François pensait, demain je conduirai ici sœur Claire, elle ornera l'autel de Jésus avec des roses, et elle sonnera cette cloche matin, midi et soir. Que le Seigneur soit béni. L'oncle et les cousins de Claire, de retour à la maison, racontèrent qu'ils avaient vu Claire vêtue d'un sac et pieds nus. Leur dédain était grand. La jeune sœur Agnès les interrompit. Mais Claire est-elle heureuse là? Qui le sait, va le lui demander si elle est heureuse. Agnès alla trouver Claire et lui demanda si elle était heureuse. Oui, le Seigneur me rend immensément heureuse, Agnès. Je voudrais être heureuse comme toi, Claire. Alors il faudra renoncer à tout. Je le sais. Il faudra souffrir pour l'amour de Dieu. Je le sais, il faudra aimer la pauvreté. Je le sais, il faudra porter la croix, Agnès. Je le sais, alors viens et tu seras vite heureuse, comme je le suis moi-même. Mais la famille est en grande agitation. Voici que maintenant Agnès est restée elle aussi au couvent. On réunit les frères, cousins et toute la famille. C'est un scandale. Tout Assise rit de nous et de notre famille. Cela ne peut plus durer. Entré dans le couvent, il s'empare d'Agnès qui est précipitée par terre. Ils essaient de la relever. Mais c'est impossible. Elle est devenue étrangement lourde. On ne peut même pas la bouger. Claire prend la parole. Comment voulez-vous vaincre la force du Seigneur? Et la famille s'en va. Ne crains rien, ma chère petite sœur. Le Seigneur te protégera toujours. Elle l'aida à se relever et elles rentrèrent ensemble au couvent. Puis elle avertit frère François qu'Agnès était prête. On alluma les cierges de la chapelle, on disposa sur l'autel les roses du jardin, et Agnès laissa sur le sol ses longs cheveux. Saint François les bénit et leur annonça que bientôt D'autres jeunes filles viendront les rejoindre dans la maison de Dieu, et Claire sera leur guide. Saint François, suivi de Claire, se rendit le jour suivant au couvent de Saint-Damien. Il aperçut au milieu des oliviers du couvent quatre murs blancs. La campagne immense et verte était pleine de soleil. Voici ta maison, Claire, la maison du Seigneur et de Dame Pauvreté, où tu devras vivre et mourir. Peu de temps après, Bona, la meilleure amie de Claire, a décidé de les rejoindre et de rester avec elle. Claire dit, « Mais je n'ai rien à te donner, Bona, sinon la pauvreté. L'herbe et la paille seront ta couche, et le pain donné en aumône sera ta nourriture. » L'exemple de Claire, d'Agnès et de Bona font vite tache d'huile dans Assise. De nombreuses autres jeunes filles se sentent appelées à suivre Dame Pauvreté. Les compagnons de frère François, passant un jour devant le couvent de Saint-Damien, s'arrêtaient et disaient « Aujourd'hui, nous avons été quêtés chez les gens riches de la ville. Voici le pain qu'ils nous ont donné. La moitié est pour vous, Claire, car tel est le désir de notre père François. » Et Claire le distribuait entre toutes. Elle ne gardait que la dernière part, la plus petite. La première, Claire se rendait le matin à la chapelle. Les sœurs étaient encore endormies. Là, Claire s'agenouillait, priait. Elle était heureuse. Un jour, Claire, levant les yeux, vit que les hirondelles avaient quitté leur nid. C'était l'hiver. Dans le couvent de Saint-Damien, le froid gelait les mains et les pieds nus des sœurs. Elle regardait la neige tomber et pensait au bon feu, mais elle n'avait pas de bois pour l'allumer. L'après-midi, les moines virent passer quelqu'un courbé sous un fardeau de branchages. C'était Claire. Approchez-vous, mes sœurs, de ce feu qui est un don de Dieu. Un soir d'hiver encore, une nouvelle sœur vint les rejoindre. Mais il n'y a plus de paille pour lui faire un lit. Claire lui donne alors sa propre paille. À la place, elle mettra des morceaux de bois. Seigneur, vous avez fait par bonté mon sommeil si doux que je n'ai même pas besoin de paille. Ce bois est le meilleur oreiller quand j'y pose la tête pensant à vous. Un soir, on frappe à la porte du couvent. C'est une dame aux cheveux gris. Elle demande à parler à Claire. Claire la reconnaît, c'est sa mère. Chaque jour, elle a prié pour elle, afin qu'elle vienne, et Dieu a exaucé sa prière. Vous êtes fatiguée, mère. Oui, mon enfant. La maison est vide maintenant. Je suis triste car je n'ai plus personne avec moi. Et quand les cloches du soir sonnèrent, les sœurs fermèrent les portes du couvent et à l'intérieur, il y avait désormais quelqu'un de plus, la mère de Claire. À Saint-Damien, comme partout ailleurs, chaque sœur a un travail à faire. Qui a la cuisine, qui a nettoyé la chapelle, qui a demandé l'aumône. Les sœurs allaient guetter dans la boue et la poussière, pieds nus, avec un panier. Quand elles rentraient au couvent, Claire les attendait devant la porte. Elle essuyait leurs pieds, elle les embrassait, car ils avaient cheminé avec fatigue pour la communauté entière. Un jour, Saint François d'Assise invita Claire au couvent afin qu'elle revît les lieux où elle fut consacrée au Seigneur. Lorsqu'arriva l'heure du repas, tous s'agenouillèrent devant le pain de la charité. Et François dit, « Bénis le jour où nous nous nourrirons de votre face, Seigneur, et vous nous appellerez à votre table avec vos saints et vos anges. » Les gens du voisinage virent un jour une grande lueur s'élever du couvent. Craignant un incendie, ils accoururent pour porter leur aide. Mais ils se trouvèrent face à François et à Claire, environnés d'une grande lumière. Un jour, frère François s'en alla prêcher la prière et la pénitence par mont et par vaux. Brisé de fatigue, il s'arrêta au couvent de Claire pour la saluer. Dehors, il neigeait. Claire voulut retenir François. Restez encore un peu avec nous, père François. Nous ne nous reverrons plus pendant longtemps. François répondit. Tu vois ce rosier dans la neige, sœur Claire. Je te promets d'être ici le jour où il fleurira. Et je passerai le jour entier avec vous. Et soudain, sous les yeux émerveillés de tous, le rosier se mit à fleurir. Dieu avait exaucé les prières de Claire. Et François s'écria, « Ô Claire, je vois que le Seigneur t'aime grandement et exauce toutes tes prières. Un jour, la réserve d'huile du couvent était épuisée. Claire prit un pot vide, le lava, l'essuya avec soin, puis elle dit « Quand passera, frère Bentevuga, dis-lui d'aller mendier de l'huile pour l'amour de Dieu. » Mais quand le frère vint, il découvrit le vase rempli jusqu'au bord de la plus belle huile. Il pensa que Claire voulait se moquer de lui. En fait, Dieu avait exaucé la prière de sa petite sœur Claire. Frère François, après avoir parcouru le monde, s'était retiré sur le mont Verne, où il demeura longtemps, seul à prier. Un jour arrive au couvent l'annonce d'un grand miracle. François avait les mains et les pieds couverts de stigmates, à l'imitation des plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Et descendant du mont Verne, il venait saluer sœur Claire et toutes les religieuses, et prendre un peu de repos proche du couvent. Claire lui prépara une cabane avec des branchages. François, souffrant, réconfortait les sœurs, les exhortant à la joie et à l'amour de Dieu et de toute la création. Il dit, Loué soit le Seigneur pour notre frère le soleil, qui donne le jour et la lumière. Et pour notre sœur l'eau, qui est humble, précieuse et chaste. Puis se tournant vers Claire, qui pleurait parce qu'elle voyait mourir son père François, il dit, Loué soit le Seigneur pour notre sœur, la mort corporelle, à laquelle nul ne peut échapper, mais à qui est dans la grâce de Dieu, elle ne pourra faire aucun mal. François mourut peu après. On descendit son corps à Assise. Quand le convoi funèbre passa devant le couvent, Claire et ses sœurs se mirent aux fenêtres pour voir François une dernière fois. Deux ans après, Grégoire IX, pape, descendit à Assise pour proclamer François bienheureux. Il s'arrêta au couvent de Claire. Au moment de se mettre à table, le pape demanda à Claire de bénir le repas. Elle n'osait pas. Le pape insista et lui demanda au nom de la sainte obéissance. Claire leva la main et traça le signe de la croix. Et le signe de la croix fut imprimé sur le pain. Mais un grand malheur s'abat. Les Sarrasins, ennemis du christianisme, s'approchent, détruisant tout sur leur passage. Ils détruisent en particulier les églises et les couvents. Un groupe de soldats se dirige vers le couvent de Claire. Les religieuses vont avertir sœur Claire qui répond « Nous sommes défendus par le Seigneur mieux que par une armée de soldats. Aidez-moi à me lever et nous irons au-devant des Sarrasins. » Claire descend à la chapelle, prend dans ses mains une cassette d'ivoire qui contient une hostie consacrée. Élevant en l'air l'hostie consacrée, elle part à la rencontre des Sarrasins en disant « Protégez vos filles, Seigneur, et sauvez-les de la main des impies. Sauvez-nous, car c'est en vous que nous mettons notre confiance. » À ces mots, un vent terrible s'est levé. Il emportait les tentes des Sarrasins qui campait sous les murs d'Assise. Un tourbillon furieux s'abat sur l'armée des Sarrasins qui prend la fuite épouvantée. Claire sent maintenant que sa sœur, la mort, est proche. Son seul désir, c'est qu'après sa mort, le couvent vive toujours dans la même pauvreté et ne s'enrichisse jamais. Rassemblant ses dernières forces, elle écrit « La règle du couvent » et l'envoie au pape Innocent IV afin qu'elle soit approuvée. Mais la règle était si dure et si austère que le pape eut d'abord quelques hésitations. Un soir d'août, un frère arrive au couvent. Il demande à être conduit chez sœur Claire. Arrivé en sa présence, il dit « Le pape m'envoie vous remettre une lettre. » Claire prend la lettre papale d'une main tremblante. Elle voit qu'elle contient ce qu'elle espérait depuis si longtemps, l'approbation de la règle des Clarisses. Elle embrassa la lettre, sourit, puis elle ferma les yeux pour toujours.